19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Un bonsoir chers amis auditeurs, merci de nous suivre, merci d'être de plus en plus nombreux, merci à vous tous. 01 53 48 3000, c'est votre numéro. Plus que jamais, vous êtes les prioritaires et vous êtes surtout vous, la priorité pour intervenir eh bien, dans cette émission des informés. Les informés, pour démarrer cette semaine, d'abord, heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On entame cette semaine en ouvrant un sommaire concernant le harcèlement scolaire. Vous savez que c'est des parents qui ont décidé de porter plainte contre TikTok tout simplement après le suicide de leur fille. Marie, 15 ans, avait publié quelques semaines avant de mettre fin à ses jours. Ça se passait en septembre 2021, souvenez-vous, une vidéo sur le réseau social dans lequel elle parlait du harcèlement qu'elle subissait. Et bien aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont décidé de porter plainte contre TikTok. Autre harcèlement scolaire, souvenez-vous, l'affaire de l'adolescent mort à Poissy, eh bien, certains et beaucoup de parents dénoncent l'inaction de certains rectorats et de chefs d'établissement. On en parle et je voudrais d'ailleurs à ce propos tout de suite ouvrir l'antenne et vous entendre au 01 53 48 3000. Là, maintenant, oui, concernant, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les parents portent plainte contre TikTok quand on parle du harcèlement scolaire? Vos enfants, ils utilisent TikTok, on est d'accord. Donc vous pouvez venir en parler ici. Est-ce que vous les freinez? Est-ce que vous régulez avec vos enfants sur TikTok? Est-ce que vous surveillez? Est-ce que vous donnez l'accord parental? Est-ce que vous, tout simplement, vous êtes contre les réseaux sociaux? Quel est vous, en tant que parent, mère de famille, père de famille, comment vous vous comportez avec votre enfant concernant les réseaux sociaux, le harcèlement scolaire et toutes ces questions, évidemment, qui aujourd'hui, vous le savez, sont une urgence. 01 53 48 3000, c'est parti, j'ouvre l'antenne. Et puis, au sommaire de cette émission, c'est également aussi un autre sujet. Elisabeth Borne, la première ministre, qui parle de sa planification écologique. Bon, Borne reçoit les chefs de parti, tous, pour partager la feuille de route jusqu'en 2030. N'est-ce pas un peu trop tard? Mais surtout, qu'est-ce qu'elle dit, cette piste? On va en parler tout à l'heure. La crise des migrants et des réfugiés en Europe. Que prépare-t-on? N'est-ce pas l'échec de la politique migratoire de Meloni ou tout simplement celle de l'Europe? On en parle tout à l'heure au 01 53 48 3000, mais surtout avec les débatteurs influenceurs. C'est maintenant, c'est tout de suite, en toute liberté d'expression.
Les informés, le face-à-face.
Et le jingle, vous savez quoi? Je vais balancer le jingle des auditeurs. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je donne la parole tout de suite, là maintenant, j'ouvre l'antenne. 01 53 48 3000. Alors là, je veux vous entendre partout en France, chers amis auditeurs. Vous le savez, moi, ce qui me fait kiffer le plus, c'est quand on partage les témoignages des uns et des autres. Je veux vraiment entendre toutes les voix. Je veux entendre les parents aujourd'hui concernant le harcèlement scolaire, mais surtout le portable et les réseaux sociaux. Est-ce que vous autorisez vos enfants à accéder à avoir un réseau social? Est-ce que vous lui accordez? Est-ce que vous lui interdisez? Est-ce que vous l'autorisez simplement sur un créneau horaire? Voilà, tout simplement. Ça, c'est la sonnette d'urgence, vous savez. C'est l'urgence. 01 53 48 3000, chers amis. 01 53 48 3000. Je présente mes débatteurs influençants en attendant que Solal récupère vos appels, évidemment, au 01 53 48 3000. Jimmy Dalidou, le représentant syndical, mais également auteur. Bonjour.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Bah écoutez, ça va toujours quand je suis sur Beurre FM. Nickel.
La fête de Lima, c'était bien?
Bah écoutez, très bien, ça dépend à quel niveau on se place. Sur le plan des débats, des discussions, très bien. On retrouve des artisans, des artistes, des associations, des collectivités territoriales. Bon, j'ai été voir des camarades de la CEGET, leur dire bonjour, préparer deux, trois petites actions prochaines. Et ensuite, il y a le côté que j'aime pas trop, il y a le côté alcool et tout ça qui me dérange un peu.
Ouais.
Mais bon, ça va, c'est un autre monde en fait. C'est un monde à part, on va dire, la fête de l'UMA. Mais c'est toujours pas mal, c'est toujours assez enrichissant.
À vos côtés, un autre révolutionnaire, une des figures des Gilets jaunes, TikToker aussi, parce qu'il me semble qu'il est toujours en direct.
en live.
Thierry Paul Valette, comment ça va?
Ben ça va, merci Vadil de me recevoir.
Toujours.
Par contre, je suis un petit peu choqué, il y a quand même quelque chose qui manque à ce que vous venez de dire.
Ouais.
Parce que la fête de l'humanité, bon, ben, c'est l'occasion de se retrouver, de la rentrée, de parler un petit peu de tout et de rien finalement. Mais au-delà de l'alcool, bon, on ne va pas stigmatiser non plus ceux qui viennent à la fête de l'humain. Moi, ce qui m'a profondément dérangé, c'est la présence d'Edouard Philippe qui vient discourir avec Fabien Roussel. PSEL.
Bon, non, voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. On connaît la position du PSEL.
On en a parlé plusieurs fois. C'est pas nouveau, mais sauf que la réalité, elle est là. Vous ne l'avez pas dit. Malheureusement, le Parti communiste.
Ouais, mais c'est surtout que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez, tu vois. Mais effectivement, si tu veux faire débriefer le PSEL,
il n'est pas content. C'est son coup de gueule.
C'est pas question de ça. Le PSEL, on le connaît. LFI,
je ne vous ai pas
été
interrompu. Laissez-le. Écoutez avec respect. Il faut être dans le respect de l'échange. C'est quelque chose d'important.
Vas-y, je t'écoute.
Donc, vous avez parlé de la fête de l'humanité en mettant en avant la problématique de l'alcool. Moi, je mets en avant la problématique d'Edouard Philippe qui est venu discuter avec Fabien Roussel. Et je trouve ça honteux pour tous les gilets jaunes et pour tous les citoyens qui se sont mobilisés contre l'inflation, contre le pouvoir d'achat depuis 5 ans. Voilà.
Je vais te répondre.
Avant de retrouver Laila de Paris, 0153 48 3000, on attend vos appels.
On en a déjà parlé plusieurs fois de la position sociale du PCF et LFI, on ne va pas la refaire. On sait, moi je me suis positionné, PCF et LFI sont des formations politiques de type social-démocrate. Et moi, ça ne m'étonne pas que M. Edouard Philippe ou d'autres personnes, ce qui me choque, c'est que vous n'arriviez pas à comprendre qu'il y ait des travailleurs qui se réunissent à un endroit. D'accord. Et qu'à un moment, moi, ce que je dis, c'est que quand le prolétaire se réunit, il faut y être.
Quand le prolétaire se réunit, il faut y aller. Au travers des gilets jaunes et Edouard Philippe et un commanditaire.
Est-ce que tu sais que dans la fête du PCF, il y avait aussi des militants syndicaux?
Je veux pas le savoir.
Il y a des gens qui craignent de conviction.
Il y a des gens qui n'ont plus les moyens. C'est l'inflation. C'est la misère. Les gens peuvent plus. Les gens
sont aussi lors des gilets jaunes.
Je m'en contrecarre. Moi, c'est la condition du Français qu'on écoute pas.
Les syndicats. Thierry Paul Valette, Jimmy Dalidou, vous savez quoi? Je sais que c'est des sujets qui vous préoccupent.
Ah, il faut que je réponde.
Et vous êtes remonté.
C'est moi qui vous ai répondu.
Et à juste titre, parce que vous reprochez aux syndicats de ne pas s'approprier ces sujets. Vous permettez?
Deux choses. Je réponds sur deux choses.
Allez-y, avant d'accueillir Leïla de Paris.
Parce qu'apparemment, il n'a pas compris que.
La première chose,
c'est que les syndicalistes révolutionnaires n'ont pas attendu ton ordre pour être parmi les gilets jaunes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je te réaffirme, c'est qu'à partir du moment où le peuple travailleur s'est réuni, indépendamment des personnages qu'il y a dans la zone proprement dite, on s'en fout. Là, on parle de la fête de l'UMA. On s'en fiche que Edouard Philippe était là. Ce que je constate, c'est qu'on a constaté, et que beaucoup ont constaté, c'est que le peuple travailleur y était, qu'ils ne sont pas tous opportunistes, qu'ils ne sont pas tous derrière Edouard Balladur, et qu'on a discuté, qu'on a débattu, qu'on s'est réunis.
Edouard Balladur, c'est l'homme du passé.
Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait aussi des gilets jaunes.
Je vais vous répondre. Moi, ça fait six ans que je combats sur le terrain, je suis à toutes les manifs. Mon Dieu, je suis pas allé au Rassemblement de l'Humanité parce qu'il y avait Edouard Philippe qui était invité. Et les syndicats, dont vous, la CGT, vous cautionnez. Ben moi, je vais vous dire, vous me parlez de Balladur. Moi, je m'en fous de Balladur. Moi, ça fait au moins 10 fois que je suis en train de vous expliquer. Edouard Philippe,
mais là, Balladur, ouais, je sais que c'est pas la même période.
Je suis en train de vous parler la problématique des Français qui sont en train de crever la dalle, qui sont à la gorge, qui sont pris à la gorge. Et là, vous n'avez aucun
confirme que les Français. On va sonder, on va parler du harcèlement scolaire, mais je vais sonder les auditeurs. Est-ce qu'ils sont à l'agonie quand on parle du pouvoir d'achat? Est-ce que vous êtes, messieurs, Est-ce que vous agonisez, comme le dit Thierry Paul Valette, est-ce que c'est la galère pour, justement, quand on parle des pouvoirs d'achat et de l'inflation? Ben, je voudrais vous entendre. Voilà. 01 53 48 3000, y compris le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux. Laïla, bonsoir Laïla de Paris.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Très bien. Quelle est votre réaction quand vous entendez ce débat? Finalement, vous êtes d'accord avec Thierry Paul Valette quand vous dites les Français agonisent et qu'ils n'en peuvent plus?
Franchement, oui.
Oui.
Ah oui, complètement.
Oui.
On n'en peut plus. Je pense que toute la population n'en peut plus. Et je ne vais pas rentrer dans un débat politique, hein, ça c'est clair. Mais je compatis. Mais c'est vrai que la population souffre, hein, de tout ce qui se passe actuellement. On n'arrête pas de parler de l'inflation, de plein de choses, quoi. Enfin, bah, moi, personnellement, je suis pompier volontaire, enfin, mais c'est vrai que c'est pas évident.
Ouais.
Donc, même nous, autant que volontaires, enfin, vous passez votre journée donc, à faire des interventions et que vous gagnez 9 euros de l'heure, je suis désolé, quoi.
Oui.
Donc, moi, je vous parle d'une femme célibataire qui a 2 enfants. Et voilà, quoi. Donc, je vous laisse imaginer, en fait, la galère
J'imagine la galère avec vos deux enfants, effectivement, vous l'avez raison. Voilà. Parlons du harcèlement scolaire, justement, et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous conseillez à vos enfants et comment ça se passe avec, justement, vos deux enfants?
Écoutez, en fait, justement, je voulais réagir tout simplement. J'avais juste un mot à dire. Faites attention à vos enfants. Juste un mot à dire. Faites attention à vos enfants. C'est très simple.
Dites-moi.
Les réseaux sociaux. Moi, j'ai 2 enfants qui ont respectivement, en fait, 11 ans et 10 ans. C'est hors de question le téléphone.
Ouais.
C'est hors de question le téléphone. C'est trop tôt. Quand je vois, pas plus tard que ce week-end, j'ai vu, enfin, une dame au restaurant, s'il vous plaît. Elle était là, en fait, avec un téléphone. Elle donne à son téléphone pour voir, en fait, des dessins animés à son enfant. Je suis pas contre. Attention. Je compatis avec ces dames ou avec ces gens, je ne juge personne. Mais franchement, vous habituez vos enfants aux écrans, c'est trop.
C'est trop. Qu'est-ce que vous en pensez,
monsieur? Vraiment, c'est trop.
Tiens, attendez, vous allez échanger avec Thierry Paul Valette et Jimmy Dalidou. Que vous pensez du témoignage de Thierry Paul Valette et Jimmy Dalidou?
Madame, moi, j'ai envie de vous dire...
Laïla,
vous êtes pompier volontaire, vous sauvez des vies pour gagner 3 fois rien, et vous aussi, vous êtes à l'agonie, et je trouve ça scandaleux, vraiment scandaleux.
Absolument,
la France d'Emmanuel Macron,
monsieur.
C'est ça, la France d'Emmanuel Macron, et ça, c'est complètement inacceptable. Et
je ne sais pas si c'est la France d'Emmanuel Macron,
c'est la France d'Emmanuel Macron. Ouais. Bah oui,
non,
mais la France tout court,
c'est la France d'Emmanuel Macron.
Depuis 6 ans, il y a l'inflation, oui, depuis 6 ans.
Ça veut dire que la situation n'était pas grave avant.
Attendez, s'il vous plaît.
Le respect pour l'auditrice.
Jimmy, juste, je veux un échange avec Laïla parce que c'est comme ça.
Voilà, ma chère Laïla, pour vous répondre par rapport à ça. Maintenant, pour les réseaux sociaux, je suis d'accord avec vous, mais seulement la problématique du harcèlement, il est beaucoup plus large. C'est le harcèlement scolaire. À l'école, sur les lieux où on étudie, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tout le monde est harcelé. On est dans une société qui est violente via les réseaux sociaux. Il faut légiférer. Il faut mettre des sanctions au niveau des GAFA. Et pas que des millions d'euros qui t'as payé un milliard.
Et des parents qui portent plainte contre TikTok.
Et j'encourage tous les parents à porter plainte.
Laïla, ils ont beaucoup de parents qui portent plainte contre TikTok. Laïla.
Oui.
On vous écoute?
Non, pardon, si je peux me permettre, en fait, avant tout ça, avant l'harcèlement, en fait, des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est la non-mixité dans les écoles. Je suis parent délégué également. Je me bats au quotidien pour ça. Au quotidien.
Mixité
c'est
sociale.
La non-mixité... Non, la non-mixité sociale et autres. Je parle de tout, monsieur. Bon. Mes enfants, ils sont pas dans une école privée, ni quoi que ce soit. Ils sont dans une école publique. Ils ont le droit d'être dans une école publique. On fait tout pour d'être dans une école publique. Mais on se bat pas assez. Il n'y a pas d'assez de mixité. Dans la classe, on trouve toujours les mêmes. On trouve toujours, en fait, même la sectorisation, en fait, hein, au niveau de sectorisation, tout est sectorisé autrement. Mmh. Alors, s'il vous plaît, s'il y a des responsables qui entendent ce que je dis, arrêtez de faire ça. Stop.
Vous inquiétez pas, le message est passé. Merci Laïla d'être passé.
Merci à vous, merci beaucoup.
Et bon courage à vous, ne lâchez rien. Jimmy Delegue,
je reviens sur deux choses. Deux choses. Premièrement, sur le processus de. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, Macron n'a pas arrangé les choses, on va dire, puisqu'on connaît la classe sociale pour qui il travaille. Mais on va dire que le problème est beaucoup plus profond. Lorsqu'on a compris ce qu'est le mode de production du capital, lorsqu'on a compris les règles et les lois qui sont inhérents à ce mode de production, je pense notamment à l'accumulation du profit, etc., etc., on a compris en fait ce qui se passe dans les écoles, c'est qu'on a clairement une financiarisation de l'école publique. C'est ça le problème. La financiarisation de l'école publique. C'est
Eh bien, on continue d'en parler juste après. Après, vous allez répondre sur le harcèlement.
Je reviendrai sur un.
Voilà, je lance la pause et on se retrouve avec Amal. Amal, ne quittez pas, restez avec moi. Amal de Toulouse. Restez avec moi. A tout de suite, ne bougez pas. 01 53 48 3000. Vous nous appelez, vous passez à l'antenne, vous témoignez.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et sachez que ça démarre très très fort hein, dans les informés. Hein, évidemment, vous venez d'assister à un échange très vif entre Jean-Pierre, Thierry Paul Valette et Jimmy Dalidou. Pierre-Henri qui vient de nous rejoindre, qui est le président de France Fraternité. Bonjour Pierre-Henri, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Beurre FM. Oui. Tout va bien dans un monde qui ne va pas forcément bien.
Oui, ça c'est sûr. Effectivement, on parle de harcèlement, on parle des parents qui ont porté plainte contre TikTok, ce harcèlement scolaire aussi où les parents ont décidé de monter au créneau, vous savez, tout simplement pour dénoncer l'inaction. Hein, à la fois du rectorat, des rectorats au pluriel, mais également des chefs d'établissement. Amel, 31. Bonjour Amel. Ah oui, allez-y avant d'accueillir Amel.
J'ai pas fini.
Je vous accueille Amel, ne bougez pas.
Sur la financiarisation, alors je disais que la financiarisation, il y a plusieurs conséquences à la financiarisation de l'école publique. D'abord, suppression de postes, conditions de travail qui sont exécrables. Finalement, évidemment, quelque part, si on analyse la situation, à l'école, que ce soit du côté de l'enseignant ou du côté des élèves, ils sont tous harcelés. Dans une certaine, d'une manière différente. On est tous harcelés.
Là, on parle du harcèlement scolaire.
Par des forces du capital qui financiarisent toujours plus, qui finit par des suicides.
Hein.
Qui financiarisent jusqu'à l'abîme. Est-ce que je veux dire par là?
C'est
que
malheureusement. On a des ados qui se suicident.
Vous me laissez plus finir, vous allez comprendre. Malheureusement, lorsqu'on a nos enfants, parce que je considère que tous ces enfants sont nos enfants à tous quelque part. On a tous une part de responsabilité. Eh bien, lorsque vous subissez cette financiarisation à outrance, eh bien, à un moment, il y a des dérives humaines, on a des enfants qui vont pas bien, et malheureusement, on a des adultes qui malheureusement ne sont pas là. Moi, je voudrais qu'il y ait des cellules permanentes qui seraient là pour communiquer avec les jeunes, les écoutent. Moi, quand j'étais à l'école dans les cités 3000 à Aulnay-sous-Bois, il n'y avait personne pour les écouter. Non, alors, c'est les premiers pour vous insuffler, subjectivement parlant, des cours. Ouais, on prend, c'est pareil.
C'est national, alors, sur TikTok.
Parce que je vous donne la parole à Amel, je vous donne la parole à Amel. Non, mais on va en parler, on est là pour ça, Jimmy, ne vous inquiétez pas. Amel, bonjour, vous êtes de Toulouse?
Oui, bonjour, oui, je suis de Toulouse.
Allez, on vous écoute, bienvenue.
Merci. Moi, c'est la première fois que j'appelle et je voulais juste vous dire, vous parlez. Oui, c'est la première fois que j'appelle. En fait, c'est un sujet qui est très sensible. Vous parlez toujours d'harcèlement. Est-ce que vous avez réfléchi au harcèlement des professeurs?
Il vient d'en parler, là, Jimmy Dalidou.
Tout à fait.
C'est ce que je disais, c'est qu'il y avait.
Mais il y a très peu de sanctions parce que moi, je sors d'une procédure de 3 ans, mais c'était affreux. Au lieu de régler le problème, ils ont fait signalement sur moi. Je viens de passer 3 ans.
Oui.
Tous les 6 mois devant un juge avec mes enfants. Vous savez, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire?
Oui.
Au lieu de régler le problème?
Oui.
Eh bien, enfants sont en danger. Ils voulaient en prendre mes 2 enfants. Je suis radicale. J'ai dû me défendre pendant 3 ans. Et chaque fois que je passais devant un juge, et je remercie les juges de Toulouse, à chaque fois ils disaient non, c'est pas possible. Et le problème, c'était pas moi, c'était l'école. C'était les profs. J'ai dû prouver A plus B que c'était les profs. On en parle très peu de ça. Mais on détruit des familles. J'ai récupéré mes enfants, mais on a perdu la complicité qu'on avait.
On sent que vous, ça a été difficile. Hein. C'est difficile pour vous.
Ah, énormément. Oui. C'est fini.
Je l'entends.
Vous les lâchez. J'espère qu'on a demandé des excuses. Mais j'ai plus de vie après. Je ne vis plus. Je me lève le matin, je pars travailler, je reviens. Est-ce que vous, il faut des formations aussi aux professeurs avant de se lancer dans de l'harcèlement comme ça gratuitement. C'est grave. c'est grave, c'est des années. Et je crois que ça a explosé. Et tellement ils n'ont rien trouvé à dire, ils ont dit que c'est islamiste. En France, en danger. Vous vous rendez compte?
Moi, je
ça, c'est un sérieux problème. Ouais. Et je ne suis pas la seule. Mmh. Je ne suis pas la seule.
Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire, Amel?
Je ne sais pas, je ne me dis pas que les enfants sont partis. Peut-être j'investirai dans, je vais m'investir dans une association. Mais franchement, alerter au niveau des profs aussi. Je ne dis pas que tous les profs ils sont pareils. Mais quand vous arrivez dans une structure, quand je l'ai vu, je l'ai vécu, quand un enfant il fait une petite bêtise pour un bonbon, ça part d'un prof à l'autre. Et un enfant, il est stigmatisé. Moi, et ma fille, elle est allée jusqu'au suicide, hein. Au lieu de comprendre pourquoi, et c'était moi qui ai été signalée.
Ouais, c'est compliqué là, si ça, elle va jusqu'au sujet.
Ah oui.
Qu'est-ce que. Merci pour le témoignage, Amel de Toulouse. Merci à vous.
Oui, s'il et vous
n'hésitez
plaît,
pas,
oui.
Et n'hésitez pas, évidemment, à revenir sur notre antenne.
Oui, oui, non, mais l'école, franchement, il n'y a pas que les élèves.
Ah, j'ai compris.
Parce
on a compris.
Moi, la prof, le jour que je l'ai.
Mais non, mais j'ai compris, Amel, on va en parler. J'ai compris. Merci pour votre témoignage. 01-53-48-3000. Je vous donne la parole. Pierre-Henri, s'il vous plaît.
Oui, c'est un sujet, celui du harcèlement scolaire, qui est...
Non, mais là, c'est TikTok, hein. C'est oui. Les parents qui portent plainte contre TikTok, c'est les parents qui montent au créneau, oui. C'est tout ça, maintenant.
Oui, enfin, bon, porter plainte contre TikTok, le réseau chinois, bon courage pour la suite. Les parents ont aussi une responsabilité de laisser les enfants en permanence devant les écrans. Il y a quand même un contrôle parental à avoir. Évidemment, pour ne pas être dérangé, je vois, moi, dans un certain nombre de familles, des parents qui laissent des gamins de 2 ans, 3 ans devant les écrans. Par ailleurs, vous avez des annonceurs qui, en permanence, par la pub, incitent évidemment à une hyper consommation sur les réseaux, donc que chacun prenne aussi ses responsabilités. On parle bien évidemment de l'école qui doit être un lieu de protection, mais enfin il y a également les parents qui ont un rôle à jouer, qui est un rôle d'éducation. Il vaut peut-être mieux passer un petit peu de temps sur le livre que sur
mais vous ne répondez pas à la question, effectivement, qui est celle de l'urgence, évidemment, l'urgence, quand on parle de harcèlement scolaire. Parce que là, effectivement... Adil, attendez, on va quand même... Là, on parle de provocation au suicide, hein.
Oui, non, mais Adil, le harcèlement, c'est pas un fait nouveau, hélas. Le harcèlement, il existe depuis que l'école existe. Simplement,
on fait un tour de table.
Simplement, aujourd'hui, c'est sur la table. Le ministre de l'Éducation veut en faire une cause nationale. Oui. Et je crois qu'il a raison, que Gabriel Attal a pris le problème par le bon bout. Et quand il explique que, par exemple, la réponse du rectorat est une honte, eh bien, il a raison. Il faut aller voir dans la machine, dans la grosse machine de l'Éducation nationale, comment ça marche, et redonner un petit peu de sens à tout cela.
Thierry Paul Valette et ensuite Jimmy Dalidou.
Moi, quand je vois la lettre du rectorat qui a été adressée aux parents du petit Nicolas, je me dis que vraiment, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire et qu'on n'est pas encore, on n'est pas au bout de nos peines. Mon premier engagement citoyen, c'était il y a 6 ans pour dénoncer justement une gamine qui s'appelait Juliette à Lisieux, d'où je viens, en Normandie, qui s'est jetée sous les rails d'un train à cause du harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a 6 ans, on n'en parlait pas vraiment. Les gens prenaient ça, mais vraiment de très loin. Limite, il y avait des moqueries. Aujourd'hui, on en parle. Ça, c'est vrai. Il y a une cause nationale qui est en train d'être prise à même le corps par Gabriel Attal, et je m'en félicite. Maintenant, il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Et quand je dis il faut des sanctions, les parents sont aussi concernés, parce que les parents font aussi partie des gens qui harcèlent. Ils font partie de ces personnes qui ont aussi des comportements déviants sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que au niveau des enfants. Et le harcèlement scolaire, c'est rejoint aussi la problématique du harcèlement de manière générale sur les réseaux sociaux, où il y a de l'antisémitisme, où il y a du racisme, où il y a de la haine, où il y a de la, des menaces de mort, et que ce soit sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok, rien n'est fait. Et quand on les condamne à des amendes de quelques dizaines de millions d'euros, pour eux, c'est rien qui engendre des milliards. Il faut vraiment une politique européenne en la matière, ferme, avec des amendes à hauteur de plusieurs milliards. Mais ça, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités.
Ouais, je partage ça totalement. Ouais,
d'accord, sur les, alors, c'est pas uniquement TikTok, hein, sur tous les réseaux sociaux. Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une... chez certains parents, et c'est le choix de la facilité. Alors, tout à l'heure, comme elle disait, je sais plus c'est qui le disait, c'est vrai, vous mettez un enfant de 5 ans devant le portable, il scroll TikTok et vous êtes tranquille. Malheureusement, il y a deux dégâts, il y a deux conséquences graves. Première conséquence, effectivement, là-dessus on est d'accord, il y a tout ce qui touche au harcèlement, au racisme, etc. Mais on assiste aussi, actuellement, et pas seulement chez les enfants d'ailleurs, chez tout le monde, il y a, appelons un chat, il y a une baisse du discernement. Alors, à force de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, pas seulement sur TikTok, il y a une chute du discernement. Et plus vous...
Et le discernement.
Je pense qu'à un moment...
Dans le cas des tech news aussi.
Je veux dire, par exemple, ma fille. Je prends un exemple sur ma fille. Ma fille que vous connaissez. Ma fille, elle a, en ce moment, elle lit un bouquin. Dès son plus jeune âge, elle avait 3 ans, tous les ans, à Noël, les cadeaux, qu'elle avait des cadeaux, mais dans les cadeaux, elle avait toujours des bouquins. Et elle a eu l'habitude depuis qu'elle est petite de lire des bouquins. Il faut absolument, il faut conscientiser nos enfants, conscientiser dans le bon sens du terme, développer la réflexion et l'esprit critique. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement une chute du discernement. Deuxième chose sur l'école. Je voudrais revenir là-dessus parce que c'est important. Tout à l'heure, on parlait de financiarisation de l'école, etc. C'est une réalité. Force est de constater que le gouvernement macroniste a plus de facilité à ouvrir la porte des écoles aux flics qu'aux associations, par exemple. Moi, je voudrais qu'on ouvre la porte des écoles aux associations. Vous voyez, des associations qui, justement, auront pour principale prérogative d'accompagner la réflexion des enfants. Par contre, alors là, apparemment, c'est plus compliqué d'ouvrir la porte aux associations. Par contre, lorsqu'il s'agit d'ouvrir la porte aux flics pour contrôler les abayas, c'est beaucoup plus facile.
C'est un peu caricatural.
C'est une réalité, messieurs. Ils ont plus de facilité à envoyer des flics pour contrôler les
des associations
qui aideraient à faire en sorte que l'éducation revienne, que l'école redevienne une éducation.
Ce n'est pas votre position, les propos que vous êtes
publique,
en train de tenir,
une
de
éducation
mêler la problématique
publique.
De la baïa par rapport à ça. Et il y avait beaucoup plus grave.
Le point de relation entre les deux.
Et il y avait beaucoup plus grave. Il y avait beaucoup plus grave pour la rentrée scolaire. Alors pour que d'aller embêter les gens par rapport à la baïa.
Alors pour toi, il n'y a pas de problème.
Maintenant,
pour toi,
je tiens quand même
les velléités dans vos.
Chacun son tour de rôle, s'il vous plaît. Sinon, c'est pour les
abayas.
Je comprends rien.
Je tiens quand même
sur la position morale.
Je peux ou pas?
Chacun un tour de rôle.
Vous êtes dans le tutoiement et vous êtes assez menaçant, je trouve. Parlons dans le respect. Je tiens quand même à féliciter les associations qui se battent sur le terrain, dans les écoles, même si c'est pas facile, qui essayent de faire remonter des informations, mais seulement quand la presse n'en parle pas, quand il y a une hiérarchie au niveau des écoles qui bloquent, comme on l'a vu avec la lettre.
De quelle association?
Vous vous renseignez.
Parce qu'apparemment, on connaît pas les mêmes écoles.
Vous renseignerez ce soir.
On connaît pas les mêmes écoles.
Associations,
moi, je peux t'assurer qu'on
vous
connaît pas les mêmes écoles.
Cessez de couper tout le monde, vous écoutez avec respect.
Ça y est.
Pourquoi vous êtes pas dans la CGT?
Les associations rentrent dans l'école, c'est parfois compliqué, mais c'est les chefs d'établissement qui en ont la responsabilité et qui les font rentrer.
Voilà.
Donc dire que les associations ne rentrent pas dans les collèges et dans les lycées, c'est totalement faux.
C'est faux.
Ensuite, faire un parallèle, avec la baïa me semble totalement lunaire. Il y a eu encore une fois 67 jeunes filles qui ont refusé de retirer leur Abaya. L'école, on en a discuté abondamment sur cette antenne. C'est un lieu qui doit être préservé des passions des adultes et de la religion. L'école, elle est faite pour apprendre et pour former des citoyens. La question religieuse doit être mise à distance. Et je regrette, franchement, je l'ai déjà dit, que la gauche se fourvoie sur cette question.
Je vais vous laisser juste accueillir, parce que c'est quand même priorité aux auditeurs. Sarah de Toulon, bonjour, bonjour, bonsoir Sarah.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci pour me donner cette occasion de parler.
Mais c'est avec plaisir. Allez-y.
Merci. Aujourd'hui, j'ai vu que j'étais à la radio. J'ai vu que c'est un sujet vraiment très très bien parce que.
Ah, ça, c'est mon compte.
Oui, voilà. Donc, l'harcèlement à l'école, moi, personnellement, ma fille, elle était concernée.
Oui.
Et j'ai pu régler ça que tout seul. Hein. Mmh.
Tout seul, toute seule, pardon.
Tout seul. Seul, aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie et heureuse. Mmh. Donc, voilà. Donc, l'harcèlement, je veux dire, on donne la responsabilité à l'école, mais c'est aussi nous, les adultes. Parce qu'un enfant, il reste un enfant, c'est une éponge. Du coup, moi, je pense que il faut que les parents, au lieu de faire des groupes pour voir si on achète, des masques mais on peut faire des groupes de parents. Ça veut dire que l'État nous donne cette responsabilité aussi,
oui.
Qu'on soit tous. Parce que moi, ma fille, elle a un prénom arabe. Mmh. Et comme on est une famille chrétienne, elle était harcelée. Parce que juste à l'entraîneur, parce qu'on a des origines maghrébines. Mmh. Et un jour, j'ai piqué ma crise devant l'école. C'était un matin de Ramadan que les enfants me disaient « Pourquoi tu fais pas carême ?» et tout, alors qu'elle a que 8 ans. J'ai dit « Mais arrêtez, mais c'est pas parce qu'elle s'appelle comme ça, c'est obligé qu'on fait carême. » J'ai dit « Mais arrêtez, Noël, carême, Pâques, Bouddha, mais on est tous pareils, on est des humains.
Ouais, » ouais. Oui.
Voilà.
Donc c'est dur, c'est pas la faute aux
enfants, c'est les parents.
C'est aussi les parents. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Merci.
C'est l'éducation. Oui. Moi, ma fille, je lui dis, écoute, avant que tu appartiens à telle religion, tu es un être humain. Il faut que tu regardes.
Absolument.
Et tu considères tout le monde.
Et c'est bien
comme
dit.
Toi, tu veux qu'on te considère.
Merci Sarah pour vos témoignages, voilà. De Toulon. 0153 48 3000 mails. Grand plaisir. On marque une pause. C'est la dernière. Et je vous donne la parole, Jimmy Dalidou, comme convenu. 0153 48 3000. Après, on passera au second sujet. Qu'est celui, vous savez quoi? On parlera de la crise des migrants. Je vous laisserai le choix. Ou celui d'Elisabeth Borne qui parle au parti politique, au chef des partis politiques pour la planification écologique. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah pardon, 0153 48 3000, on vous attend, vous êtes en direct. 19h42, 42 avec Jimmy Dalidou, avec Pierre-Henri et enfin avec Thierry-Paul Valette.
Deux choses.
La parole et après on parle des migrants.
Oui, tout à fait. Non, deux choses sur l'école. Encore une fois, je pense qu'il faudrait intégrer dans l'école des cellules pérennes de communication, que les enfants soient écoutés et discutent, indépendamment du terrain syndical. Je vois que, par exemple, comme M. Valette, font la confusion entre la CGT et l'école.
Je n'ai jamais confondu la CGT avec l'école.
Parce que
là, vous
enfants,
êtes diffamant. Restez dans vos propos, ne faites pas des attaques personnelles, cachez derrière vos notes.
Les enfants qui sont harcelés sont tous nos enfants.
On était parti sur l'école.
Donc j'ai pas fini ce que je disais. Donc je réitère qu'effectivement, dans les écoles, ce qu'il faut dans les écoles.
Mais contrôlez-vous,
monsieur Valette.
Contrôlez-vous. Mais vous n'avez pas arrêté de me couper tout à l'heure.
Vous perdez votre discernement et votre rationalité.
Arrêtez de m'attaquer, parlez du sujet, monsieur.
Laissez-moi finir. Restez maître de vous, monsieur.
Enfin, vous me voyez. Enfin, maître de l'heure d'émission.
J'ai pas fini ce que je voulais dire. Parce que monsieur.
Faut être court.
Encore une fois, ouvrir la porte aux policiers, c'est une chose, mais il faut ouvrir la porte aux associations et surtout à la communication. C'est tout.
Thierry Paul Valette. Alors, vous répondez très court.
Je vais répondre à ce monsieur qui n'a eu de cesse que de me tutoyer. pendant tout le début des émissions que ça choquait tout le monde, alors que je l'ai vous voyez.
C'est un syndicalisme.
Mais quand bien même. C'est pas parce qu'on est syndicat qu'on ne respecte pas les gens. Maintenant et qu'on puis, vous dit, maintenant, mais voyez, puis, voyez puis, il va recommencer.
Attendez,
faut
laissez-le,
pas vous couper,
laissez-le.
Couper pas les gens.
Maintenant, laissez-le, vous dites, faut pas me couper, laissez-le.
L'école avec les syndicats, mais permettez-moi juste de vous dire une chose. Les syndicats, c'est une chose, l'école, c'en est une autre. D'accord? Moi, il y a 3 semaines, je viens de Lisieux. J'étais aux obsèques du proviseur qui est décédé, où on a, tout le monde a cru que c'était un assassinat. Heureusement que c'était pas un assassinat. C'est quelqu'un qui luttait contre le harcèlement scolaire. Moi, j'étais auprès de lui depuis plusieurs années. Et il y a 5 ans, j'ai commencé ce combat-là. Vous étiez où, vous? Nulle part, je vous ai jamais vu. Donc, je vous permets pas d'avoir des propos outrageants, de dire que je confonds.
Alors c'est pas monsieur Vallée, c'est monsieur Vallée. Vous connaissez pas.
Vous coupez les gens, il ne faut pas
ça.
Maintenant, on va parler d'immigration.
Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à mettre
les micros. On coupe les micros, stop. Pierre-Henri, s'il vous plaît. Non, mais je suis obligé de. Regardez, je suis obligé de me radicaliser, moi, à l'antenne, parce que vous ne respectez pas. Moi, je suis là pour réguler, mais bon, je vous laisse. Pierre-Henri.
Eh bien, je vais essayer de parler du thème que vous avez lancé, mon cher Adil, c'est-à-dire la question des migrants.
Alors allons-y, parlons de la question des migrants. Alors, les migrants, je veux qu'on parle de cet échec. Est-ce qu'il y a vraiment échec de cette politique migratoire de Meloni, Giorgia Meloni, ou est-ce que c'est l'Europe dans l'intégralité,
Je crois qu'il y a plusieurs instrumentalisations croisées. D'abord, il y a évidemment l'échec de Giorgia Meloni. Qui s'est fait élire sur des promesses qu'elle allait et sur la promesse qu'elle allait arrêter l'immigration.
Donc c'est pas explosif.
En provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, en promettant un blocus
parce que là,
naval.
Ça a explosé là. Ça a explosé dans tous les sens là.
Non. Alors ça n'a pas explosé. Les images que nous avons à la télévision depuis 4-5 jours sont des images qui sont totalement instrumentalisées. Je ne me souviens pas que l'on ait parlé d'invasion migratoire lorsque l'Europe, en 3 mois, a accueilli 4 millions d'Ukrainiens. Je ne me souviens pas que l'on ait parlé d'invasion migratoire quand l'Europe a accueilli en 2015...
Et c'est légitime ce que vous dites, parce que vous êtes le spécialiste de ces questions-là.
...1,5 million Syriens. Donc, il y a une instrumentalisation. Il y a une mise en scène qui a été tout à fait bien orchestrée par l'extrême droite avec le soutien d'un certain nombre de chaînes d'information qui n'ont eu de cesse de mettre en scène Marion Maréchal Le Pen, la maréchale.
Voilà.
Alors qui est allée passer un week-end à Lampedusa et qui s'est mis à parler d'invasion migratoire en lançant sa campagne européenne. Il n'y a pas d'invasion migratoire. Il y a par ailleurs une difficulté européenne. Nous n'arrivons pas à avoir une politique commune à 27. Voilà, ça c'est parce qu'il y a 3 groupes au sein de l'Europe. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe de Visegrad, qui est celui des pays de l'Est, qui ne veut voir personne entrer. Il y a un groupe qui est celui des pays de première entrée, l'Italie, l'Espagne, Malte, la Grèce, qui ont des approches différentes et qui en permanence appellent à la solidarité. Mais je voudrais vous dire une chose.
Et les Allemands et les Français.
Et puis il y a un troisième groupe qui est celui des pays d'accueil, les vieux pays de la vieille Europe, qui accueillent quand même énormément. Et à ce propos, je vous rappelle que c'est pas l'Italie qui accueille en premier.
Non.
C'est l'Allemagne qui accueille 3 fois plus que l'Italie. Pourquoi ? Parce que l'Italie joue avec les règles de l'Union européenne. Elle laisse passer les gens. Et la crise avec l'Allemagne, là, elle est très simple. L'Allemagne dit, mais attendez, je vous ai demandé de réadmettre plus de 12 000 personnes qui étaient passées par votre pays. Vous en avez admis 10. L'extrême droite n'a pas de solution face à cette difficulté. Parce que il faut pas nier qu'il y ait une difficulté. Moi, je suis de ceux qui veulent refonder les règles au sein de l'Union. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut des majorités de projets. On ne peut pas, sur cette question compliquée, être à 27. Mais par contre, 70% des flux aujourd'hui en Europe arrivent dans 7 principaux pays d'accueil. C'est ces 7 pays d'accueil qui doivent prendre des règles communes. Et parmi celles-ci, je vous en cite une, qui est qu'il doit y avoir des standards communs et une reconnaissance commune des demandes d'asile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a pris une décision dans un pays, par exemple en Allemagne, qu'on a accepté ou qu'on a rejeté, eh bien, cette décision vaut pour l'ensemble des pays de l'Union. Ça évitera les mouvements spontanés.
Exactement.
Pierre-Henri. Thierry Paul Mallet.
C'est difficile de passer à Pierre-Henri.
Ah, ça, c'est difficile, je vous confirme.
Il est le spécialiste, il a très bien résumé les choses, il les a très bien pointées.
Il a passé sa présence, justement, dans les médias ce week-end.
Alors, justement, moi, ce qui me fait peur, quand même, c'est que on voit le Front National, on voit Zemmour, toute cette montée des extrêmes et des populismes qui sont en train de mener de débuter leur campagne européenne sur la problématique des migrants. Et la problématique des migrants n'est pas la problématique qu'on essaie de faire croire. Où il y a une invasion, que les gens vont être en danger pour leur vie, pour leur travail, pour tout. Voilà, ça c'est complètement éhonté. De toute façon, je vais juste dire deux choses. C'est que l'Italie, on le voit bien, l'extrême droite a été dans l'incapacité d'amener la moindre réponse politique à la crise migratoire.
Donc aujourd'hui,
exactement, échelle Meloni. C'est pour ça que Madame Le Pen s'en éloigne. Donc aujourd'hui, le Front National, qui font croire mont et merveille en disant votez pour nous, on va régler cette problématique-là, ne vous inquiétez pas, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est un mensonge sans nom. Maintenant, ce que vient de dire de Pierre-Henri, bien évidemment, dans le cadre de l'élection européenne, il faut des propositions, et quant à la crise migratoire, 27 c'est beaucoup trop, parce que d'autres sont beaucoup plus se préoccupés que d'autres. Donc oui, il faut être 6, 7, faire un consortium de décisions au cadre, cadre de l'Union européenne.
Trois choses. La première chose, c'est que d'une manière générale, on fuit toujours le mal vivre, le mal-être. On fuit pas le bien-être. C'est qui a fui, c'est qui. La plupart de ces personnes fuient des pays dans lesquels il y a chaos, destruction, misère et famine et guerre. Et la deuxième chose, il faut comprendre, la causalité a été inversée. La principale cause, c'est quoi? Mais appelons un chat un chat. Les différents pays impérialistes, France incluse, je prends l'exemple du Libye, de l'intervention en Libye en 2011. On ne va pas revenir sur les différentes conséquences de l'intervention de Libye en 2011, validée par tout le monde, d'ailleurs à l'époque. Sarkozy, gauche, droite, tout le monde. D'accord. Et quand les Libyens tapent à la porte, on leur dit « Ah oui, mais vous êtes des méchants immigrés, Libyens entre autres, par exemple, il y en a plein des exemples. » On leur dit « Ah, vous êtes méchants, vous voulez nous envahir. » Seulement, ils n'ont pas demandé à se faire pulvériser à la gueule par les avions de l'OTAN. D'accord. Donc ça, c'est sur les conséquences de l'impérialisme français, entre autres. Troisième chose, concernant on voit bien que la force de travail, qu'elle soit une force de travail pour le capital, elle reste force de travail, quelle que soit sa nationalité. En Italie, Madame Meloni, je crois que c'est 13 000 régularisations de son papier qui a été faite. En Hongrie, c'est pareil. Alors, je vous rappelle qu'ils se sont fait élire sur des. Madame Meloni a clairement dit que un de ses exemples, c'était Benito Mussolini. Pourtant, elle a régularisé plus de 13 000 sans-papiers. Donc vous constatez qu'une force de travail reste une force de travail exploitée par les forces du capital.
Merci,
quelle
monsieur.
Que soit sa nationalité.
Juste 10 secondes. Là où je me félicite, c'est que finalement, le programme économique, le programme pour lutter contre l'inflation, pour régler la crise en France et pas que européenne, Madame Le Pen, il n'y a rien dans son programme. Donc elle est obligée d'agiter toujours le drapeau de l'immigration, du rejet et de la peur de l'autre.
Et du boulot, hein, Pierre-Henri, hein.
Ah, il y a un énorme travail, parce que je rappelle quand même que dans 15 pays sur 27, l'extrême droite dépasse les 20%. Et que nous avons perdu une bataille culturelle dans l'affrontement avec l'extrême droite. Et donc, si on veut reprendre le fil, il faut aussi éviter les simplifications sur ce sujet.
Merci à Jimmy Dalidou, merci à Thierry Paul Valette. Merci également à Pierre-Henri. À la réalisation, c'était évidemment Solal. Bilal Nedman, 20h-21h. Vanessa, 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.